France Info.
Après-midi, la Charente-Maritime ce soir jusqu'au Bordelais.
Merci beaucoup Christine Peña. Et d'ailleurs, j'ajoute que les transports scolaires sont suspendus ce matin dans toute la Normandie et dans toute la Bretagne. Merci à tous d'écouter France Info en ce frais 5 janvier. Il est 5h. Et à la une, 9 Français parmi les 40 morts du feu de Crans-Montana en Suisse dans un bar lors du réveillon. Nous allons y revenir dans un instant. À la une aussi, le président déchu du Venezuela, Nicolas Maduro, capturé par les Américains, qui doit comparaître aujourd'hui devant un juge aux États-Unis. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui entame des rendez-vous avec les syndicats agricoles pour tenter de calmer leur colère. Et puis le PSG qui s'impose face au Paris FC en Ligue 1. C'était le premier derby du genre depuis 47 ans. Nous le disions, donc les victimes sont identifiées après cet incendie dramatique dans un bar de Crans-Montana en Suisse lors du passage à la nouvelle année. 40 morts et parmi eux, Timur Özturk, de jeunes victimes.
La moitié des victimes de l'incendie n'a pas 18 ans. Les plus jeunes, une Suissesse et un Français, n'avaient même que 14 ans. La police cantonale valaisanne annonce donc que les 40 personnes ayant trouvé la mort dans l'incendie du Nouvel An ont été identifiées. On dénombre 21 Suisses, 9 Français, c'est la deuxième nationalité la plus endeuillée, 6 Italiens ainsi qu'une Portugaise, un Belge, un Roumain et un Turc. Leurs noms ne sont pas divulgués par les autorités qui assurent avoir contacté les familles concernées. 119 personnes sont-elles blessées, dont une partie dans un état très grave. Parmi ces blessés, 23 Français, selon un dernier décompte. Une journée de deuil national est prévue en Suisse vendredi prochain, avec notamment une minute de silence fixée à 14h.
Merci beaucoup pour ces précisions, Timur Özturk. Donald Trump compte-t-il s'arrêter au Venezuela après la capture de Nicolas Maduro? Cette opération spectaculaire, capture du président désormais déchu du Venezuela. Manifestement, à en croire les dernières déclarations du président américain, Frank Madvon, il ne compte pas s'arrêter là.
C'est un Donald Trump enhardi par l'opération de samedi au Venezuela, dont il ne cesse de vanter la parfaite exécution et les mérites, qui s'est adressé aux journalistes à bord d'Air Force One hier soir. « On va diriger le Venezuela », confirme Trump, « réparer le pays en redressant notamment son industrie pétrolière ». Mais le président américain regarde aussi d'autres nations, dont la Colombie du président de gauche Gustavo Petro. La Colombie est aussi un pays malade, dirigé par un homme dangereux qui aime fabriquer de la cocaïne pour l'envoyer aux États-Unis. Ça ne va pas durer, je vous le dis. Pour Cuba, pas besoin d'intervenir, estime Trump. Cuba est prêt à tomber, ça en a l'air. Je ne pense pas qu'il puisse tenir. Tous leurs revenus viennent du Venezuela, du pétrole vénézuélien. Beaucoup de Cubains américains seront très heureux si ça arrive. Et Donald Trump ne s'arrête pas à l'Amérique. On a besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale. C'est si stratégique. Le Groenland est aujourd'hui encerclé par des navires russes et chinois partout. On a besoin du Groenland pour des raisons de sécurité et je peux vous dire que le Danemark ne va pas s'occuper de ça. Comme souvent, ce sont de simples déclarations, la plupart en réponse à des questions de journalistes, mais 48 heures après la capture spectaculaire de Nicolas Maduro, elles ont assurément plus de poids.
Nicolas Maduro qui doit comparaître devant un juge américain à New York aujourd'hui. Merci beaucoup Franck Madvon, correspondant aux États-Unis de France Info. Votre rendez-vous médical a peut-être été décalé ou annulé. Les médecins libéraux sont appelés à faire grève pendant 10 jours à partir d'aujourd'hui. Tout cela pour contester des mesures contenues dans le budget de la sécurité sociale adopté dans la douleur au Parlement. Pour tenter de désamorcer ce mouvement, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a dit aux médecins dans une lettre ouverte qu'il n'était plus question de les sanctionner s'ils ne remplissaient pas le dossier médical de leurs patients. Mais Anne-Laure Danier, la ministre, maintient qu'il faut limiter les arrêts de travail.
Les arrêts de travail limités à un mois, c'est l'une des mesures du budget de la Sécu qui hérisse le docteur Sophie Boer, chirurgien et présidente du syndicat des médecins libéraux.
Nous sommes très en colère. D'une part, la loi de financement de la sécurité sociale remet en cause notre indépendance professionnelle de façon très sévère. Un avis d'arrêt de travail, ça fait partie évidemment des soins et du traitement. Et donc c'est une décision médicale dans laquelle, en principe, le législateur ne devrait pas s'immiscer. Et évidemment aussi le non-remboursement des prescriptions des médecins qui ne sont pas conventionnés. C'est quand même hallucinant pour les patients qui payent une assurance obligatoire, puisque je rappelle que la sécurité sociale, c'est une assurance santé obligatoire de ne pas pouvoir bénéficier de remboursement.
Alors oui, la mesure qui a cristallisé leur colère, les sanctions pour ceux qui ne remplissent pas le dossier médical partagé, a été annulée par le Conseil constitutionnel. Mais il reste le déremboursement des soins réalisés par des médecins non conventionnés, l'interdiction de certains dépassements d'honoraires. Et c'est largement suffisant pour mobiliser les médecins libéraux, les internes et les étudiants en médecine. En plus de faire grève, ils manifesteront le 10 janvier à Paris.
Anne-Laure Danier, une autre colère a désamorcé pour l'exécutif, celle d'une partie du monde agricole. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, reçoit à partir d'aujourd'hui ses syndicats mobilisés, certains contre la politique d'abattage des troupeaux de bovins touchés par la dermatose nodulaire, certains autres aussi contre le projet de traité de libre-échange avec le Mercosur, les pays d'Amérique du Sud. Le chef du gouvernement a d'ores et déjà annoncé suspendre l'importation des produits de cette région qui contiennent des résidus de pesticides interdits en Europe. Mais Maria Melkurdi, ça ne va sans doute pas calmer le mouvement.
Ce qui préoccupe beaucoup les éleveurs comme Thomas Gibert, également porte-parole de la Confédération paysanne, c'est notamment la gestion de la dermatose qu'ils contestent toujours.
Il y a effectivement cette politique sanitaire, mais en toile de fond, il y a cette colère agricole qui ne faiblit pas.
Sentiment partagé par les autres syndicats agricoles comme la FNSEA.
À un moment donné, il va falloir que le politique tranche ce qui avait été annoncé aux agriculteurs. Ça doit voir le jour.
Hervé Lapi, son secrétaire général.
C'est vrai pour la loi du plomb, pour la loi d'orientation agricole, pour la simplification, c'est vrai pour les sujets de l'eau, pour la prédation. Enfin, il y a plein de sujets qui sont coincés en France et à un moment donné, qui est-ce qui gouverne aujourd'hui en France? Est-ce que c'est le politique qui a encore la main ou est-ce que c'est l'administration qui bloque tous les dossiers?
Mais le sujet de crispation pour tous, c'est le traité de libre-échange du Mercosur que la présidente de la Commission européenne veut signer ce mois-ci. François Valrette, secrétaire général de la coordination rurale, compte le redire au Premier ministre.
En signant ce Mercosur, on nous dit à la fois, bah oui, on voudrait bien le modèle d'agriculture petite exploitation, environnement protégé, et puis on vous met en concurrence avec l'agriculture sud-américaine.
La CER continue de faire pression avec des blocages. Les JA et la FNSEA mettent fin à leur trêve hivernale avec un appel à des actions sur tout le territoire dès aujourd'hui.
Merci Mariam Elkurdi. Je ne suis pas une femme mesurée, se justifie Brigitte Macron à nouveau aux 20h de TF1. Elle qui avait qualifié, souvenez-vous, de conne des militantes féministes qui avaient interrompu le spectacle de l'humoriste Harry Habitant, un temps accusé de viol avant de bénéficier d'un non-lieu de la justice. Je suis absolument désolé d'avoir blessé les femmes qui ont pu se sentir agressées. Les termes étaient certainement pas adéquats, ajoute l'épouse du président de la République. Et puis c'est le Paris Saint-Germain qui l'emporte sur le Paris FC. Victoire hier, 2-1 dans le derby de la capitale, grâce à des buts de Désiré Doué et d'Ousmane Dembélé. C'était le premier derby entre les deux équipes depuis 47 ans. Julien Froment, nous le disions, tout cela dans une ambiance bon enfant.
Hier soir au Parc des Princes, c'est un coup de sifflet final comme un autre, pas d'effusion de joie particulière. Certes, le speaker rappelle que le PSG vient de s'adjuger le derby parisien, mais les supporters ont encore du mal à donner une quelconque valeur symbolique à cette rencontre.
Aujourd'hui, le Paris FC, il est en construction. Moi, je pense pas que ça devienne un derby, c'est pas Paris OM.
Pour l'instant, pas de saveur encore, hein. On n'y est pas encore parce que c'est trop récent. Peut-être avec le temps, on verra si on arrive à avoir une rivalité, mais pour l'instant, bon, on va dire que c'est le petit frère.
Côté PSG, on essaie de s'auto-persuader l'attaquant Désiré Doué.
On avait à cœur de gagner ce match. Voilà, on joue contre le Paris FC, nous on est le Paris Saint-Germain. C'était important de démontrer que voilà, on doit gagner ce genre de match et ce genre de derby.
Côté Paris FC, le milieu de terrain, Maxime Lopez, lui, est plus lucide.
Aujourd'hui, il y a trop d'écart entre le PSG et le PFC. Déjà, nous, on doit déjà se maintenir, rester en Ligue 1 et après peut-être qu'on pourrait écrire une histoire. On est qu'au début de notre projet et ça serait trop être prétentieux de parler de réel derby.
Et signe de l'écart abyssal entre les deux formations, ce matin, le Paris Saint-Germain compte 23 points d'avance au classement sur son voisin de parvis.
Et autre résultat de cette 17e journée, un match nul entre Lorient et Metz, un partout. Nantes s'impose 2-0 sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. Christine Peña, dans notre ciel, ce qui s'impose ce matin, c'est le froid et la neige.
Oui, la neige au nord de la Loire. 7 départements entre la Bretagne et la Normandie sont en vigilance orange pour cet épisode de neige. Alors c'est une perturbation qui entre par les côtes de la Manche avec le froid. Forcément, ça donne de la neige et qui va circuler en s'enfonçant entre la Champagne, Paris et le nord de la Nouvelle Nouvelle-Aquitaine en fin de journée jusqu'au Bordelais dans la soirée. Les températures ce matin sont vraiment négatives. Hein. On a pas mal de moins 11, moins 12 en Auvergne, notamment à Aurillac, moins 6 à Bordeaux en ce moment, moins 5 du côté de Nantes, à Agen également, moins 5 degrés, moins 4 à Alençon, à Bourges, à Orléans, à Rouen également, à Biarritz, moins 4 degrés comme à Nancy. Les températures sont positives juste en Méditerranée. Allez,
comme
Toulon,
d'habitude.
Ça fait longtemps.
Oui, ça faisait
5
longtemps.
5 degrés ce matin.
C'est pas mal, 5
c'est
degrés.
C'est pas mal, 5 degrés finalement.
Merci beaucoup Christine Peignard. On vous retrouve juste avant à 5h30 pour de nouvelles prévisions. Il est 5h10.
France Info, le monde d'Élodie.
Bonjour, c'est Élodie Suigo. Je vous retrouve du lundi au vendredi sur France Info, cinéma, théâtre, littérature, musique, sport. Chaque jour, je vous propose un entretien sous forme de portrait avec un artiste autour de son actualité.
Le monde d'Élodie, c'est toute la semaine à 5h20 et 10h50 sur France Info.
Le monde d'Élodie, justement, ça sera dans une dizaine de minutes avec l'actrice Joséphine Japy et au programme de France Info d'ici 5h30 également, l'espoir des Vénézuéliens qui vivent aux États-Unis. France Info leur donne la parole après cette capture du président Maduro par les Américains lors d'une opération militaire. 9 Français parmi les morts de l'incendie de Crans-Montana. L'ambassadrice de Suisse en France sera également avec nous. Mais d'abord, les médecins libéraux qui commencent 2026 avec une grève.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Les médecins de ville et des cliniques qui débutent donc un mouvement qui est prévu pour durer une dizaine de jours. Pourquoi cette grève? Le docteur Franck Devudler, président de la Confédération des syndicats médicaux français, nous répond.
Pourquoi nous sommes en grève? Parce que le gouvernement, mais également certains élus de la nation, certains députés, ont décidé de prendre pour cible les médecins libéraux. Concrètement, au travers de la loi de financement de la sécurité sociale, au travers d'un projet de loi en cours de discussion contre la fraude, qui est évidemment le souci de chacun, de mettre dans cet article contre la fraude les médecins au prétexte qu'ils prescrivent des arrêts de travail, et au travers de la loi de finances de la sécurité sociale, de mettre des articles qui vont pénaliser les femmes médecins à l'heure de leur retraite, quand elles vont vouloir prendre un cumul en plein retraite, mais aussi de s'asseoir finalement sur la convention médicale, sur les discussions entre les syndicats représentatifs et l'assurance maladie, permettant à l'État de baisser d'autorité la valeur de l'expertise de nos médecins.
Et ce mouvement, il sera suivi?
Oui, fortement suivi. C'est l'ensemble des syndicats médicaux représentatifs, c'est l'ensemble des collectifs représentant les médecins libéraux, mais c'est aussi les établissements de santé privés, les cliniques.
Pourquoi les cliniques sont aussi dans le mouvement?
Parce que ce qu'on appelle l'ONDAM, donc l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie hospitalier, qui concerne l'hôpital public et les cliniques, est très déséquilibré en défaveur des cliniques. Et qu'aujourd'hui, on a une clinique sur deux en France qui est en situation de déficit et qui a joué à ce jeu-là. On prend le risque de pénaliser l'accès aux soins de la population française. Mais c'est aussi les plus jeunes. Les étudiants en médecine, les internes en médecine vont également se mettre en grève pendant cette période entre le 5 et le 15 janvier prochain.
Ce mouvement, donc, il doit durer 10 jours. C'est fréquent une mobilisation de médecins, notamment aussi longue?
Non, c'est toujours difficile d'employer le mot historique, mais je pense que là, en l'espèce, sur ce champ d'activité, c'est historique. On n'a jamais connu un tel mouvement d'une telle ampleur, très fortement suivi. On a chacun mené nos sondages au sein de nos structures respectives. En ce qui concerne la CSMF, dont je suis le président, j'ai interrogé l'ensemble de mes adhérents, 85% d'entre eux suivent ou suivront ce mouvement de grève. Donc c'est rare, c'est grave, et la gravité, c'est pas un mouvement corporatiste. On veut faire comprendre à l'État que tirer sur la médecine libérale, c'est tirer sur l'accès aux soins, c'est rendre plus complexe la situation de la prise en charge de la santé des Français. Et on invite d'ailleurs les Français à nous comprendre et à nous rejoindre, parce que c'est demain eux qui en paieront le tribut.
Alors, dans l'immédiat, la ministre de la Santé, elle dit avoir pris des mesures pour organiser la permanence des soins, pour que nos concitoyens ne soient pas en danger pendant cette mobilisation. Et si besoin, des réquisitions sont possibles? Vous le comprenez?
Oui, non seulement je le comprends, mais c'est pas si besoin des réquisitions. Hein. C'est déjà, les ordres de réquisition sont déjà partis. Soyons clairs, c'est un mouvement social d'importance. Maintenant, nous sommes médecins avant tout, et il n'est pas question de mettre en danger la population française. Ce mouvement de grève va mettre à l'arrêt l'ensemble des soins programmés. Il n'y aura plus de consultations, plus de chirurgie, plus d'actes d'endoscopie programmés. En revanche, on fait également la grève de la permanence des soins, des gardes et des astreintes. Et c'est entre autres sur ces gardes et ces astreintes que, en fonction des besoins, territoire par territoire, sur demande des agences régionales de santé, les préfets réquisitionnent les médecins. Il y a tout un processus assez clair sur ce plan. Ça veut dire que leurs consultations programmées sont arrêtées pour cette période-là. Ça veut dire
que vous n'allez plus faire de garde.
Oui, mais on va plus faire de garde et on sera, selon les besoins, selon la nécessité ou pas, réquisitionné par les préfectures. Donc la santé de la population française ne va pas être menacée dans cette période. En revanche, l'accès aux soins classiques, habituels, ce qui est programmé, nos consultations et nos actes opératoires seront différés.
Le président de la Confédération des syndicats médicaux français, Franck Devudler, qui répondait aux questions France Info de Marc Potvin. Quarante morts, dont 9 Français. Les morts de l'incendie du bar La Constellation de Crans-Montana lors du réveillon en Suisse, ils ont tous été identifiés. Drame qui meurtrit tout un pays. Un deuil national est prévu vendredi en Suisse. Un pays qui peut compter sur la France. Salut l'ambassadrice suisse à Paris sur France Info, Tania Cavassini.
D'abord, nous avons reçu énormément de messages de soutien et de sympathie de Français directement ici à l'ambassade de Suisse. Et j'aimerais remercier les Français pour leur message de sympathie aussi sur les réseaux sociaux, pour les fleurs qui ont été déposées devant l'ambassade. C'est une solidarité extraordinaire. Et donc, j'aimerais souligner cet élan-là. Et puis, vous l'avez dit, la solidarité s'est mise en marche, alors que la Suisse a toujours envoyer ce corps d'aide suisse en cas de catastrophe à l'étranger pour des catastrophes. Eh bien là, pour la première fois, nous avons fait appel au mécanisme européen de protection civile et nous avons 23 pays européens qui ont apporté et qui apportent leur soutien. Et la France aussi, pas seulement, vous savez que la coopération franco-suisse se fait au quotidien. Je peux en témoigner, mais en période de catastrophe, elle redouble d'efforts et
Elle se révèle,
effectivement.
Quel rôle a joué, vous, votre ambassade durant ces derniers jours? Est-ce que vous avez pu être amené à accompagner des proches de victimes, notamment qu'elles soient suisses ou françaises?
Alors, ce sont surtout mes homologues, donc mon homologue Marion Paradas, qui est ambassadrice de France en Suisse, et puis surtout le consul général à Genève et toutes ses équipes, qui évidemment accompagnent de près les Français. Nous allons intervenir plus tard, lorsqu'il sera nécessaire d'accueillir peut-être les familles de ces personnes qui sont soignées dans les hôpitaux français. Là, pour l'instant, nous laissons le personnel médical faire son travail.
Vous disiez que vous connaissiez très bien, Tania Cavassini, la station de Crans-Montana pour y être allée quand vous étiez plus jeune aussi. Comment ce lieu, ce village pourra-t-il se relever de ce terrible drame?
Vous savez, le Valais se relève toujours. Vous avez vu aussi une autre catastrophe il y a quelques mois de cela, une montagne qui est tombée sur tout un village. Nous avons la crainte en Suisse, et nous connaissons le danger des montagnes. Mmh. Et donc, vous savez, les personnes se relèveront, mais les séquelles seront là, bien sûr. Et il en va aussi de tous ces blessés qui repartent aussi avec ces blessures non visibles, qui sont extrêmement violentes.
Alors ce drame de Crans-Montana ravive des souvenirs douloureux dans plusieurs pays. Mmh. C'est le cas en France qui avait connu un drame similaire en 2016. 14 jeunes Français qui avaient péri dans le bar Le Cuba Libre, c'était à Rouen. Il avait pris feu dans les mêmes circonstances à cause de bougies d'anniversaire dans une cave. Madame l'ambassadrice, ce drame pose en effet de nombreuses questions sur les normes de sécurité. Une enquête est ouverte contre les gérants français du bar. Vous comprenez cette colère, ces interrogations qui s'expriment notamment chez les proches des victimes?
Mais bien sûr, elles sont légitimes. Et je crois que les victimes et les blessés et leurs familles auront tous, et nous tous, auront droit à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et bien sûr, la justice va faire son travail et laissons la justice faire son travail.
L'ambassadrice de Suisse en France, Tania Cavassini, qui répondait à Benjamin Recouvreur sur France Info. À venir dans un instant, la joie des Vénézuéliens aux États-Unis réjouie de la capture du président Maduro. France Info, reportage en Floride, juste après un nouveau point complet sur l'actu de ce 5 janvier.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
Et justement, c'est avec vous et à la une ce matin, les nouvelles menaces de Donald Trump.
D'abord contre la présidente vénézuélienne par intérim, Delcy Rodriguez. Si elle ne coopère pas, elle va payer un prix plus élevé que Maduro, affirme le président américain. Après la capture de Nicolas Maduro, l'ancien président vénézuélien va être présenté à un juge à New York ce midi. On connaîtra précisément les charges retenues contre lui. Donald Trump affirme par ailleurs que les États-Unis sont désormais aux commandes du Venezuela. Il s'en prend désormais à Cuba. Il affirme que le pays allié de Caracas est prêt à tomber. Il menace aussi la Colombie d'une opération militaire et ajoute que les États-Unis ont besoin du Groenland pour leur sécurité. Le Premier ministre français reçoit plusieurs syndicats agricoles aujourd'hui alors que ces derniers veulent relancer le mouvement. Sébastien Lecornu assure que le gouvernement va prendre des arrêtés cette semaine pour suspendre l'importation de produits venant d'Amérique du Sud, ceux qui contiennent certains pesticides interdit en France. Et puis la rentrée scolaire est perturbée dans toute la Bretagne et en Normandie. Les transports scolaires sont suspendus à cause du risque de verglas et de neige. 7 départements sont en vigilance orange, du Finistère à la Seine-Maritime.
France Info. Deux jours donc après sa capture, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, comparaîtra en fin d'après-midi devant un tribunal fédéral américain à New York. Capture ordonnée par Donald Trump et toujours célébrée par la communauté vénézuélienne aux États-Unis. À Doral, dans la banlieue de Miami, un habitant sur trois est issu de cette communauté et les fêtes se multiplient comme dans ce restaurant où vous vous êtes rendu. Pour France Info, Sandrine Eto'o à Andegue.
La caída de Maduro.
La capture de Nicolas Maduro, c'est comme un cadeau d'anniversaire, s'exclame Juan.
El momento más histórico.
Il danse, drapeau vénézuélien sur les épaules, au milieu d'une centaine de compatriotes. Même joie sur le visage d'Orlando.
That's the most important celebration.
C'est la plus grande célébration de ces dernières années pour nous. Ce gouvernement est tombé. Que dis-je, Maduro, ce dictateur.
Maduro. Spirit, grateful.
Nous sommes reconnaissants envers Donald Trump. La prochaine étape, ce sont les élections présidentielles. Après la liesse, c'est la question qui est dans tous les esprits. Que va devenir le pays ? Alors que Delcy Rodriguez, la vice-présidente de Maduro, a repris le pouvoir par intérim. Ils ont seulement attrapé Maduro et sa femme, s'énerve Jorge. Il fallait capturer tout le monde et nettoyer tout ça, estime cet opposant politique. La majorité considère qu'il faut faire confiance à l'administration Trump, même si Concette Santiago, un jeune gérant d'hôtel, c'est très difficile pour nous en tant que peuple d'accepter d'être dirigé par une puissance étrangère. Et si vous confiez le pays à Maria Corina Machado ou à Edmundo González, les deux leaders de l'opposition, ils ne sont pas respectés par l'armée qui est tellement corrompue, ils ne vont pas y arriver. Le Venezuela a besoin du soutien des États-Unis, c'est la nation la plus puissante au monde et pour l'instant, c'est notre meilleure option. C'est aussi l'avis d'Isabella, une étudiante. Bien sûr que Trump a ses intérêts, il n'y a rien de gratuit. Il veut notre pétrole, nos richesses. On était sous la coupe de la Chine, de l'Iran, de la Russie et même de Cuba. Je préfère encore les Américains. Véronica, elle, se projette avec inquiétude. J'ai encore de la famille là-bas, le pays est divisé, j'ai peur que ça explose de l'intérieur. Paola dit elle ne pas croire à une transition politique douce. Il y aura des bains de sang. Je ne vois pas comment ça peut se finir autrement, conclut la mère de famille.
France Info, reportage en Floride aux États-Unis, signé Sandrine Eto'o Andegue. Il est 5h23 et c'est l'heure du monde d'Élodie. Avec une actrice ce matin face à Élodie Suigo.
Bonjour Joséphine Japy.
Bonjour.
Vous êtes cette actrice que nous avons pu voir dans des pubs. C'était il y a très très longtemps. Au cinéma, ça c'est sûr, avec notamment ce rôle de Marie dans le film Neuilly sa mère de Gabriel, hein, Julien Laferrière en 2009. Ce qui a marqué les esprits, c'est lorsque vous êtes vue confier le rôle de France Gall, fiancée à Claude François dans le film Clo-Clo. Et évidemment votre rôle de cette lycéenne de 17 ans, Charlie, dans le film de Mélanie Laurent, Respire en 2014, qui vous a valu d'être nommée dans la catégorie du meilleur espoir féminin au César en 2015. Aujourd'hui, vous signez votre premier film derrière la caméra. En tant que réalisatrice qui brille au combat avec Mélanie Laurent. Ce n'est pas une fiction, mais un film qui vous raconte, vous et votre famille. C'est le quotidien des familles hein, qui ont l'un des leurs touchés par le handicap. C'est une main tendue, non pas larmoyante, mais juste de la réalité de la vie impactée par ce quotidien vécu par des familles qui, somme toute, se sentent souvent abandonnées. J'ai l'impression que c'est d'abord un cri du cœur, du coup, Joséphine, ce film.
Un cri honnête, en tout cas, un cri intime. Il n'y avait pas cette notion douloureuse de devoir sortir quelque chose de moi comme un exutoire. Au contraire, moi, je commence commence à écrire ce film quand j'ai moins de colère, quand ça commence à aller mieux dans ma vie. À la fin de l'errance du diagnostic de ma sœur, en fait, qui a duré 25 ans. Mais il y a évidemment une pulsion intime et sincère à l'origine du projet.
Je voudrais que vous me racontiez cette enfance. Effectivement, il y a cette sœur qui évolue à vos côtés. Tout le monde comprend qu'il y a un problème. Mais, ouais. Et le but du jeu, c'est de l'aider. Je voudrais que vous me racontiez comment ça s'est passé enfant et comment vous avez appris ce diagnostic, effectivement, qui a duré plus de 2 décennies.
Bah, c'est très, très juste, en fait. En vous écoutant en parler, il y a un grand sentiment qui était très profond, c'est le sentiment d'impuissance. Ce sentiment où j'entendais ma sœur la nuit, parce qu'il y avait des grosses crises de douleur, par exemple, et être réveillée par votre sœur qui va mal et ne rien pouvoir faire pour la soulager, pour l'aider. Ce sentiment d'impuissance, il m'a accompagnée longtemps, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'à côté, dans le reste de ma vie, j'ai tant essayé d'avancer, de maîtriser les choses. Peut-être que d'une certaine manière, réaliser ce film, c'est remaîtriser mon histoire aussi un petit peu. Mais voilà, c'est une enfance ponctuée de ça, et en même temps, évidemment, d'une grande richesse. Moi, très tôt, j'apprends que les mots qu'on s'échange dans la vie valent pas grand chose par rapport à tout ce qu'on se dit de non-verbal au quotidien. Ma sœur m'apprend ça, elle m'apprend le langage du silence. Et ça, c'est un grand cadeau, parce qu'après, je l'ai utilisé à plein d'autres endroits, à commencer par ma vie de comédienne. Moi, je suis jamais aussi heureuse que quand sur un plateau, on me donne pas de dialogue et juste on me laisse parler avec les yeux, la situation. Voilà. Donc, elle m'a appris plein de choses.
Ce qui est très difficile en tant que spectateur, c'est de se rendre compte à quel point c'est lourd sur les épaules de la sœur de. C'est lourd sur les épaules des parents de. C'est très difficile de trouver sa propre place sans ce sentiment de culpabilité.
Bah, le sentiment de culpabilité, c'est au-delà de pourquoi elle et pas moi, c'est comment je fais pour être moi. Comment je fais pour aller vivre ma vie, pour aller vivre ma vie d'adolescente.
Pour aller des anniversaires, pour faire des booms.
Exactement, et ne pas la laisser sur le côté, ne pas l'abandonner, ne pas la laisser sur le carreau de la vie, parce que moi, en fait, je vais aller vivre la mienne à 120 à l'heure. C'est une question que se posent beaucoup de frères et de sœurs, je le sais. J'ai beaucoup de témoignages depuis le début de cette promotion. Je suis particulièrement émue à chaque fois que je les reçois. Et voilà, et j'avais cette tentation, évidemment, bah, parce que c'est l'histoire que je connais peut-être aussi la mieux.
Tout y est, hein, dans ce film. Il y a cette maman qui, à un moment donné, pose la question au médecin de savoir si sa fille va pouvoir avoir un enfant en n'ayant pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Vous êtes enceinte aujourd'hui, vous l'avez annoncé. C'est un sujet douloureux, ça aussi. Enfin, ça a été un sujet douloureux pour votre maman, la crainte.
Ouais, je pense que c'est un sujet fort de maman, de lever cette crainte chez moi. Donc, en fait, je pense qu'il y avait ce questionnement pour nous aussi, de se dire, est-ce que mes filles sont destinées à avoir le même chemin que moi ? Est-ce qu'elles devront prendre ce risque-là ? Et évidemment, quand j'écris le film, je viens d'être débarrassée de ce poids-là, parce que littéralement quelques mois avant, ma mère m'a dit qu'en fait, j'étais pas porteuse du gène. J'écris le film, je tourne ce film, et quand je le sors, bah, je suis enceinte. Je pense que n'importe quel psy vous dirait que tout ça est assez parlant quand même.
Est-ce que justement ce métier d'actrice vous a permis de vous soulager, d'être quelqu'un d'autre, de sortir de votre corps et de vous offrir des rôles que vous rêviez d'avoir, plus légers ?
Ah ouais, beaucoup. Ça m'a soulagée de plein de trucs. Alors après, est-ce que je le faisais pour aller mieux ? Est-ce que tous les acteurs font pas ce métier pour aller un peu mieux ? Ça, c'est une autre question métaphysique. On n'aura pas la réponse aujourd'hui. Mais oui, je l'ai fait pour être regardée aussi, je pense. Souvent, on dit que les frères et sœurs, on les appelle les enfants de verre, les frères et sœurs de personnes handicapées. Pas parce qu'on n'est pas dans des familles aimantes, pas parce qu'on n'est pas avec des parents qui essaient de nous regarder, juste parce que factuellement, quand vous avez quelqu'un qui accapare tant d'attention, donc est-ce que j'ai voulu compenser ça pour être encore plus regardée ? Là, on rentre dans des sujets assez profonds. Voilà, le film est un appel à l'égoïsme sain, à l'émancipation des individualités, à la possibilité de sortir, de partir, d'aller vivre sa vie sans culpabilité et avec la bienveillance du regard des autres.
Merci beaucoup, Joséphine, d'être passée dans le monde d'Élodie sur France Info. Ça s'appelle Qui brille au combat. À vous d'aller regarder ce film. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci à vous, Élodie Suigo. On retrouve le monde d'Élodie sur l'application Radio France. Il est 5h28 et c'est l'heure de jeter un coup d'œil au ciel.
France Info Météo, avec Vérissure. En 2026, priorité à votre sécurité. Faites confiance à Vérissure, alarme télésurveillée numéro 1 en France. Devis gratuit sur Vérissure.fr.
Avec Christine Peña, de la neige pour débuter la semaine.
Mais oui, cette semaine sera neigeuse en effet avec cette perturbation qui arrive aujourd'hui par les côtes de la Manche avec le froid. Ça donne de la neige. De la neige de la Bretagne à la Normandie jusqu'au Hauts-de-France. Et puis elles glisseront là, ces chutes de neige, vers l'intérieur du pays entre la Champagne, Paris et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Aquitaine. Alors, en plus des 7 départements en vigilance orange, entre la Bretagne et la Normandie, on a sans doute l'Île-de-France qui devrait être concernée par cette vigilance neige. On en saura plus à 6h tout à l'heure. Dans l'après-midi, on attend de la neige sur Paris, donc qui devrait tomber jusqu'en soirée. Cette neige va rester au sol, hein, même si les quantités ne seront pas très importantes avec le froid. Ça va d'ailleurs regeler dans la nuit. Elle tiendra au sol et demain matin, ça risque d'être un peu la patinoire et mettre la pagaille en Île-de-France. Alors, pas qu'en Île-de-France, c'est vrai. Au niveau des températures, elles restent très froides, très basses cet après-midi. Moins 1 à Dijon, à Besançon, pas de dégel. Hein, 0 du côté de Strasbourg et de Lyon. 1 degré, un petit degré à Rouen. 2 à Paris, à Toulouse. 4 à Bordeaux. 5 à Marseille. Nous aurons toujours un peu plus de douceur sur l'extrême sud-est. Hein, 12 du côté de Nice et de Bastia. Et pour la suite, eh bien, nous avons demain une belle journée qui s'annonce très ensoleillée, mais mercredi, de nouveau de la neige sur un axe qui va aller de la Belgique jusqu'au Massif central. Et jeudi, nous aurons de nouveau de la pluie avec un radoucissement tout de même pour la fin de la semaine et certainement un bon coup de vent.
Merci beaucoup Christine Peña. À venir sur France Info d'ici 6h, un point complet dans 5 minutes sur la situation au Venezuela après la capture du président Maduro. Vous entendrez que Donald Trump menace désormais aussi d'autres pays à demi-mot. Dans 20 minutes, l'inquiétude des candidats au concours de prof en France. Pour l'instant, faute de budget de l'État, eh bien, aucun recrutement n'est prévu. On verra tout cela donc juste avant 6h. Merci d'écouter France Info en ce 5 janvier. Il est 5h30 et c'est l'heure d'un nouveau journal.
France Info.
Et à la une ce matin, 9 Français sont morts dans l'incendie de Cran Montana. C'est le dernier bilan fourni par le Quai d'Orsay. 40 personnes au total ont perdu la vie dans ce feu qui a touché un bar prisé des jeunes dans la station de ski suisse lors du réveillon du Nouvel An. Pour l'heure, les autorités françaises refusent de donner l'identité des 9 compatriotes décédés. Mais on en sait un peu plus sur 2 d'entre eux, Yvan Planteil.
Les victimes françaises de cet incendie ont entre 14 ans pour la plus jeune et 39 ans. 3 d'entre elles étaient mineures. Nous avons pu identifier Giovanni Putelli, ce Vosgien, père de 2 enfants et dont la famille s'était rendue en Suisse ces derniers jours pour assister aux recherches. C'est aussi sa famille qui a publié la triste nouvelle hier en début de journée alors que l'identification des corps se poursuivait. Et puis il y a également Sian Panin, 24 ans, originaire de Sète, dans l'Hérault. D'après nos informations, c'était une ancienne serveuse du bar Le Constellation où a eu lieu l'incendie mortel. Elle y était venue passer le réveillon avec des amis et elle était très connue pour avoir travaillé dans de nombreux bars de la station de Cran Montana.
Merci beaucoup Yvan Planteil pour ces précisions. À noter que le bilan fait aussi état de 119 blessés, parmi eux 23 Français. 32 Cubains ont été tués lors de la capture au Venezuela par les Américains du président Maduro. C'est ce qu'annonce La Havane, jusqu'à maintenant alliée de Caracas. Au Venezuela, c'est désormais la vice-présidente qui est à la tête du pays. Elle demande à Donald Trump une relation équilibrée et respectueuse. Le président américain lui assure que ce sont les États-Unis désormais qui sont aux commandes du pays. Nous allons revenir longuement dans un instant sur ces dernières déclarations de Donald Trump. Des agriculteurs en colère comptent bloquer partiellement le pont de Normandie aujourd'hui suite de leur mouvement de colère. D'ailleurs, pendant 2 jours, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, va recevoir les syndicats agricoles. Reprise du dialogue. Jean-Rémy Baudot, service politique de France Info. Hier soir, la FNSEA, le principal syndicat, appelé à une mobilisation nationale. Alors comment le Premier ministre imagine-t-il calmer cette colère ?
Eh bien, par le dialogue et par des gestes concrets, des mesures notamment mises sur la table ce week-end, comme la suspension des importations de denrées en provenance d'Amérique du Sud. Sébastien Lecornu, avant même la reprise des discussions aujourd'hui à Matignon, a écrit hier soir au Monde Agricole 2 pages où il confirme ses nouveaux engagements. Plus aucun produit ne sera importé en France s'il utilise des substances interdites dans l'Hexagone. On pense aux avocats, aux raisins, pommes, fraises, pommes de terre. La liste est longue, alors cet engagement se double d'une promesse. Renforcer les contrôles aux frontières. Le Premier ministre en opération déminage, il promet des actes, se place du côté des agriculteurs, dit comprendre les injustices qu'il rencontre. Sébastien Lecornu qui veut manifestement aller vite, plus vite même que les discussions européennes. En cette rentrée et à quelques semaines du Salon de l'agriculture, il joue son va-tout pour éviter un nouvel hiver de colère paysanne.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau du service politique de France Info. Et puis un vol Air France entre Paris et Beyrouth a dû être dérouté hier et atterrir à Munich en Allemagne en cause d'une odeur de chaud sentie par les passagers dans la cabine. Sans précision sur son origine pour le moment, les passagers sont bien. L'avion a pu se poser en toute sécurité sur l'aéroport allemand. Il est 5h33, merci d'écouter France Info.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Et revenons sur ces déclarations choc qu'a multiplié Donald Trump cette nuit. Bonjour Franck Madvon.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondant à Washington de France Info. Déclaration tard hier soir à bord de son avion de retour de Floride. Après cette capture spectaculaire ce week-end du président vénézuélien, une opération qui semble, Franck, lui donner des idées.
Oui, Donald Trump est devenu, c'est désormais une certitude, un président interventionniste à bord de son avion. Il a d'abord plaisanté hier soir quand on lui a posé une question sur le Groenland, on verra plus tard. Puis il a donné son avis, oui, nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale. Cuba, le pays est prêt à tomber, selon Trump, car il est privé du pétrole vénézuélien. La Colombie, c'est aussi un pays malade, dirigé par un homme dangereux qui envoie de la cocaïne aux États-Unis, référence au président de gauche, Gustavo Petro.
Alors pour revenir au Venezuela, Franck, Donald Trump entend diriger et contrôler le pays, en sait-on plus sur les plans américains ?
Nous allons diriger le Venezuela, c'est peut-être la déclaration de Donald Trump qui a le plus retenu l'attention ce week-end. Le projet reste flou en réalité. Depuis samedi, l'administration Trump envoie des messages contradictoires. La vice-présidente Delcy Rodriguez dirige désormais le Venezuela par intérim. Elle a d'abord été présentée comme une possible partenaire. Même s'il s'agit d'une fidèle de Maduro, elle est réputée plus pragmatique, proche des milieux d'affaires. Mais Donald Trump l'a clairement menacée hier. Si elle ne fait pas ce qu'il faut, elle va payer un prix très cher, probablement plus élevé que Maduro. Son secrétaire d'État Marco Rubio assure pour sa part que l'objectif n'est pas de gouverner le Venezuela, mais de définir la nouvelle direction que doit prendre le pays. Sur CBS, il n'exclut pas de travailler avec des membres actuels du régime Maduro.
Nous allons faire notre évaluation sur la base de ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent pendant l'intérim, pas ce qu'ils ont dit dans le passé, mais leurs actions à venir. Je sais juste que s'ils ne prennent pas les bonnes décisions, les États-Unis utiliseront tous les moyens de pression pour défendre leurs intérêts.
Et Marco Rubio cite l'un de ces moyens de pression, le pétrole. Les forces navales américaines imposent de facto un blocus pétrolier. Aucun cargo ne peut actuellement quitter le Venezuela ou y accoster.
Et le pétrole, justement, Franck, c'est un sujet majeur pour l'administration Trump ?
Oui, ça ne fait plus aucun doute. Ces derniers mois, Donald Trump et ses ministres ont surtout parlé de la responsabilité du Venezuela dans le trafic de drogue ou dans l'immigration clandestine aux États-Unis. Deux arguments très discutables, en fait. La drogue la plus meurtrière ici, c'est le fentanyl, fabriqué en Chine, qui transite par le Mexique. La cocaïne du Venezuela est en grande partie exportée vers l'Europe. Et rien ne montre que le Venezuela a envoyé aux États-Unis ses prisonniers, ses criminels, comme l'affirme Donald Trump. Le président a bien précisé samedi qu'il allait autoriser les compagnies pétrolières américaines à exploiter les ressources du Venezuela, ce qui inspire ce commentaire au sénateur démocrate Chris Van Hollen, toujours sur CBS.
L'administration Trump a menti au peuple américain. Il n'a jamais été question de stopper le trafic de drogue vers les États-Unis. Ça, on y est tous favorables. Non, depuis le début, il est question de se débarrasser de Maduro et de saisir le pétrole du Venezuela pour les entreprises pétrolières américaines et les amis milliardaires de Trump.
Donald Trump l'a redit hier soir à bord de son avion. Nous voulons l'accès total à l'industrie pétrolière. Au bénéfice du Venezuela, assure le président américain, mais il est clair qu'il ne s'agit pas d'une opération humanitaire.
Et quant à Nicolas Maduro, on le disait, il doit donc être formellement mis en accusation aujourd'hui.
Oui, l'acte d'accusation a été publié samedi, il a été actualisé. Nicolas Maduro était déjà inculpé aux États-Unis depuis 2020. Le document compte 25 pages et vise aussi sa femme, Cilia Flores, leur fils et trois membres du régime, dont le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello. Maduro y est notamment accusé de narcoterrorisme, d'avoir exporté des milliers de tonnes de cocaïne vers les États-Unis. Il aurait, par exemple, fourni des passeports diplomatiques à des trafiquants ou facilité le transport de l'armée l'argent de la drogue par avion. Ce trafic, est-il écrit, a enrichi et renforcé l'élite politique et militaire du Venezuela. Un long processus judiciaire commence donc aujourd'hui. Nicolas Maduro est convoqué à midi, 18h heure française, devant un juge expérimenté de Manhattan. Pas d'informations pour le moment sur son équipe de défense.
Merci beaucoup Franck Madvon, correspondant à Washington de France Info. Alors, quelles conséquences pour le reste du monde? Ce qui est sûr, c'est que la Russie et la Chine ont perdu un allié avec cette capture par les États-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro. Quelle suite pour le monde? Voilà l'analyse de Jean-Maurice Ripert, ancien ambassadeur de France, en Russie justement, et en Chine.
Permettez-moi de dire que si on peut se réjouir effectivement de la fin d'un dictateur qui, quand même, je le rappelle, a provoqué l'exil de 7 millions de Vénézuéliens. C'est la plus grande communauté exilée du monde. Donc il faut voir de quoi on parle. Il faut évidemment aussi condamner la méthode utilisée par Donald Trump, et ce que vous avancez est évidemment très juste. Le signal envoyé par Donald Trump avec cette opération est double en réalité vis-à-vis de la Chine, de la Russie, mais aussi de l'Iran ou d'autres. C'est, puisque je le fais, ça veut dire qu'éventuellement je fermerai les yeux sur le fait que vous le faites vous aussi, mais ça peut aussi vouloir dire, attention, je suis capable, avec cette plus grande armée du monde, comme ça a été répété à l'envi, cette plus forte armée du monde, je suis capable de frapper n'importe qui, n'importe où. Donc il y a à la fois une menace et en même temps une forme de laisser libre ses adversaires. Alors je pense que dans le cas de la Russie, c'est aussi lié au fait que probablement Donald Trump a fini par comprendre qu'il ne convaincrait pas Vladimir Poutine de faire la paix en Ukraine.
Donc il s'est dit perdu pour perdu, autant que moi j'y aille au Venezuela. Voilà.
Je pense que ça a joué certainement. C'est malheureusement, je pense, un signal de plus du fait qu'il n'interviendra pas et qu'il au secours de l'Ukraine plus que ça n'a été le cas dans le passé. C'est un très mauvais signal pour les Ukrainiens, je le crains.
Est-ce que, du coup, ça entame la crédibilité des États-Unis qui mène ce processus de négociation pour aller vers une fin du conflit en Ukraine?
D'abord, il n'y a pas vraiment de processus de négociation. Il y a une discussion, pour l'instant, en réalité, entre les États-Unis, le président Zelensky et les Européens. Vladimir Poutine ne participe à rien du tout. Et chaque fois que les Américains consultent, il les envoie balader, passez-moi l'expression.
Et là, il a d'autant plus de raisons de le faire à l'avenir.
Mais c'est ce que je pense, oui. Je pense que tout ça est tragique, en effet. Quant à la doctrine Monroe, moi, ça fait plusieurs années que je suis frappé, en effet, par ce retour à la fois à la doctrine Monroe côté américain et à la doctrine Brejnev côté russe, j'allais dire soviétique.
On revient
à la même chose. Chacun chez soi, c'est l'étranger proche. Je contrôle les Amériques, vous ne vous en mêlez pas, voire Cuba, ou voir l'épisode de Grenade que plus personne ne cite et a oublié, le renversement d'un gouvernement qui était considéré comme gauchiste par les États-Unis, l'arrestation de Noriega, bien sûr,
au Panama.
Et de l'autre côté, la doctrine Brejnev, qui était que l'étranger proche de la Russie soviétique appartenait à la Russie soviétique. C'est exactement ce que Vladimir Poutine revendique et essaye de faire de nouveau en essayant de remettre la main sur l'Ukraine, en ayant vassalisé la Biélorussie et en continuant à occuper des territoires en Transnistrie ou en Géorgie.
En Transnistrie, hein, c'est une région de la Roumanie, hein, si je ne me trompe pas.
Absolument.
La réaction
qui n'a jamais été quittée par les troupes soviétiques, pour le coup, à la chute du mur. Et depuis 1991, il y a toujours des soldats russes qui occupent une partie de l'actuelle Moldavie.
Parlons maintenant des Européens dont la réaction a été plutôt timide, hein, il faut le dire, après l'intervention américaine. Emmanuel Macron n'a rien dit sur le droit international qui a été bafoué. Est-ce que ça n'entame pas aussi la crédibilité des Européens dans ces discussions toujours en cours sur une hypothétique fin des combats en Ukraine?
Écoutez, j'ai du mal à comprendre la position du président Macron. Si elle se résume à la phrase qu'il a faite, en effet, c'est un peu court. Heureusement, Jean-Noël Barrot a été un peu plus explicite et la France s'exprimera, j'espère, de manière un peu plus ferme au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais vous voyez bien
parce
que là,
il y a une réunion après la capture de Nicolas Maduro.
à la demande du Venezuela. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais il est certain que les Européens sont dans une situation difficile. Vous avez mentionné le Groenland. Le Danemark, pays européen s'il en est, est menacé par M. Donald Trump d'un rachat, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, du Groenland. Vous avez vu cette députée ou cette membre, en tout cas, de la Chambre américaine qui a publié une carte où le drapeau américain était superposé au Groenland.
Et d'ailleurs,
Donald Trump
a dit qu'il a absolument besoin du Groenland, et la première ministre du Danemark exhorte les États-Unis à cesser leurs menaces contre le Groenland et le Danemark.
Oui, vous imaginez la situation des Européens si Monsieur Trump se met à envahir, à occuper ou à diriger le Groenland. Enfin, ce serait une catastrophe absolue pour toute la sécurité en Europe. Mais un dernier mot sur la Russie, les États-Unis et peut-être qui englobe la Chine cette fois-ci. Ce qui est extrêmement inquiétant pour les Européens et la raison pour laquelle beaucoup de gens se battent depuis des mois et des mois pour faire comprendre aux Européens que c'est leur sécurité, leur avenir qui est en jeu. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est la convergence des opérations, des actions et des menaces des trois autocraties que sont aujourd'hui la Chine, la Russie et les États-Unis. Et c'est un danger pour toutes les démocraties du monde, c'est un danger pour les grands pays du Sud émergés, démocratiques, et c'est un danger pour les Européens et pour les Nations Unies, bien sûr. Et je pense qu'il est temps de se réveiller. Le monde, en effet, Monsieur Barrot a dit, je crois, va devenir chaotique, ou je ne sais plus l'expression qu'il a utilisée. Ça fait longtemps qu'il l'est. Il est temps de réagir et de s'organiser. Et face à cela, il faut en revenir au droit international, au multilatéralisme, aux Nations Unies. Et vous voyez que la réaction des grands pays du Sud et des Européens sera la même. C'est-à-dire à la fois d'être content de se débarrasser d'un dictateur, mais en même temps de dire on ne peut pas accepter que ce soit par le recours à la force et les violations systématiques du droit.
L'ancien ambassadeur de France en Russie et en Chine, Jean-Maurice Ripert, qui répondait à Marc Potvin sur France Info. Dans un instant, nous serons de retour à Crans-Montana en Suisse. Témoignage de lycéens qui font leur retour en classe aujourd'hui et qui ont perdu des camarades dans l'incendie du bar La Constellation.
France Info, 5h-6h.
Avant cela, à 6h moins le quart, l'info en une minute avec Maureen Suignard. Et à la une, cette vigilance orange en cours dans le nord-ouest de la France.
7 départements en orange sur la carte Météo France, du Finistère à la Seine-Maritime, où il y a un risque d'averse de pluie et de neige mêlée, du verglas aussi. Les transports scolaires sont suspendus en Bretagne et en Normandie. L'ancien président Nicolas Maduro, capturé par l'armée américaine ce week-end, va être présenté à un juge à New York ce midi. Il est inculpé dans l'État de New York pour narcoterrorisme et crimes contre l'humanité. Le président américain estime que les États-Unis sont désormais aux commandes du Venezuela. Il menace la présidente par intérim et l'appelle à coopérer. Et après le Venezuela, le chef d'État américain fait aussi pression sur la Colombie, le Groenland et Cuba. Ce dernier pays est prêt à tomber, dit Donald Trump, assurant qu'il sera difficile pour lui de tenir sans les revenus issus du pétrole vénézuélien. Et puis en Suisse, les 40 victimes de l'incendie de Crans-Montana ont été identifiées, 9 sont françaises. On compte 3 mineurs âgés de 14 ans, 15 ans et 17 ans. 29 Français ont aussi été blessés.
France Info.
Et justement, dans le choix de France Info, ce matin, nous sommes en Suisse, à Crans-Montana. Bonjour Marc Bertrand.
Bonjour.
Vous avez rencontré des lycéens alors que beaucoup des 40 victimes étaient mineurs. La plus jeune avait 14 ans et vous avez donc rencontré des lycéens habitués de ce bar La Constellation qui retournent en cours aujourd'hui avec des chaises qui resteront vides en classe.
Le Constellation, on n'en aperçoit que l'enseigne, derrière les grands draps blancs qui recouvrent l'entrée, devant des bougies, des bouquets, des cœurs brisés dessinés au feutre noir. Mathis, 17 ans, hésite à s'avancer. C'est la première fois qu'il revient aussi près.
Ouais, revoir comment c'est maintenant, après la scène de chaos, on va dire. J'y étais pas, mais j'étais en train d'y aller 10 minutes après. J'étais sur le chemin pour y aller et quand on est arrivé, j'ai pas les mots. Il y a des gens brûlés, défigurés, on savait pas si c'était des hommes ou des femmes. C'était la guerre, c'était une scène de guerre. Et voir un bar tel que celui-là où on se retrouvait tous les week-ends, On était une cinquantaine de potes à y aller. Et le voir comme ça, on se croirait dans un film. J'ai presque envie de dire, mettez-moi une claque pour que je me réveille de mon rêve, quoi.
Son groupe de copains est derrière. Ils sont tous d'ici. Les morts, les grands brûlés, ce sont leurs camarades de classe, dit Diana, le menton rentré dans sa doudoune.
Bah, par exemple, il y a une fille, en plus je sais que c'est une fille qui aime bien s'apprêter, prendre soin d'elle et tout, et ça me brise le cœur de savoir si elle est brûlée au visage, je sais que c'est compliqué après de continuer à vivre comme ça. Là, par exemple, après, je vais rejoindre une copine qui a perdu dans la nuit là, deux de ses meilleures copines. Je vais aller un peu lui changer les idées, mais c'est horrible en fait. Personne se dit, bah, je vais aller dans un bar, ça va cramer et je vais brûler vif.
À côté, Maxime est soulagé que les vacances se finissent. Il attend le retour au lycée, en bas, dans la vallée.
Les leçons et tout ça, c'est vraiment ce qui pourrait, je pense, le plus un peu nous faire un peu oublier ce qui s'est passé ce soir-là. Mais après, dès que, par exemple, un prof va vouloir revenir sur le sujet, moi, c'est déjà très clair dans ma tête. Le prof, s'il reparle, je ferme mon sac, je pars, je rentre chez moi. Le lendemain, je dis au pire que je suis malade ou je sais pas, mais je reviendrai pas. On n'a pas envie qu'il parle de ça.
Diana s'allume une cigarette.
En fait, nous, on a plein d'examens, on est en dernière année, donc c'est un peu compliqué, je sais pas trop comment est-ce qu'on va faire.
Ils ont tous la matu, l'équivalent du bac, à la fin de l'année.
Là, j'ai beaucoup d'exposés, des présentations devant la classe à réaliser. Et ouais, c'est une boule au ventre que j'ai en plus. En fait, tu t'écris des choses qui n'ont aucun sens, mais tu te rends compte par après que tu l'as écrit.
Le jeune homme dit qu'il a encore en tête les images des corps brûlés. Ses amis qui font des massages cardiaques à d'autres amis.
Je sais plus c'était qui a dit, c'était le Bataclan sans les armes. Moi je connais quelqu'un qui depuis ce qui est arrivé ne parle plus, n'arrive plus à parler. Par exemple hier j'ai été faire les courses avec mes parents, la première chose que j'ai fait c'est regarder où est-ce que c'était la porte de sortie. J'arrive plus à dormir depuis, je dois mettre des vidéos, des sons en arrière-plan, sinon je vois les visages brûlés, je vois toutes sortes de choses, c'est horrible quoi. Et puis pour ceux qui étaient dedans, je ne veux même pas imaginer quoi.
Le petit groupe vient de sortir du centre des congrès, réquisitionné depuis 4 jours pour la cellule psychologique. Au début, ils n'ont pas voulu y aller, ils pensaient que d'autres en avaient plus besoin.
J'ai été un peu forcé par ma copine qui m'a dit « faut que tu y ailles parce que… » voilà. Et puis j'ai trouvé ça super, j'ai pu me libérer, ils te remontent le moral vraiment. Et mes deux potes là… Eux, ils sont très réservés, ils sont un peu comme moi, ils aiment pas trop parler, ils préfèrent garder pour eux. Je les ai forcés à venir, je leur ai dit, maintenant vous venez avec moi, leur père il nous a amenés. Et ouais, je vois que ça leur a fait du bien d'avoir pu parler.
Diana se souvient de ses premières sorties au Constel, comme on l'appelle ici. Elle avait 14 ans et ça n'a jamais choqué personne jusqu'à aujourd'hui.
Je sais pas si vous avez entendu les patrons dire que tout a été fait dans les règles de l'art. Je trouve que c'est une honte. Il y a des mineurs qui sont rentrés alors que normalement à partir de 16 ans on peut rentrer mais que en haut, on n'a pas le droit de descendre en bas. Franchement c'est la honte.
Toi tu retourneras dans un bar ?
Non, pas du tout. Et en tout cas s'il y a un nouveau truc qui s'ouvre aux Constellations, moi j'y retourne plus.
Diana dit qu'avec tout ce qui s'est passé, personne dans la station n'a voulu se souhaiter la bonne année.
Témoignage recueilli en Suisse à Crans-Montana par Marc Bertrand. Le choix de France Info est à réécouter sur franceinfo.fr. Y aura-t-il des concours pour devenir prof cette année? Cela paraît aberrant, mais la question eh bien, se pose, car pour l'heure, il n'y a pas de budget de l'État voté par le Parlement. Aucune création de poste n'est donc possible pour le moment. Et donc, les concours qui sont prévus en mars et avril pour les étudiants en licence sont pour l'heure bloqués. 88 000 candidats sont donc en pleine incertitude, Noémie Bonin.
C'est une réforme censée enrayer la crise d'attractivité qui touche le métier d'enseignant. Mais sans budget 2026, ces nouveaux concours sont gelés.
Au début, j'ai cru à une blague.
Théo termine sa licence Sciences de la vie et de la terre à Bordeaux. Il vise le CAPES prévu dans 2 mois seulement.
Bah déjà, il y a du stress parce que c'est un énorme enjeu. On a mis un petit peu en pause notre licence pour privilégier le concours. On se sent un petit peu perdu, on n'a pas d'informations. Il y a potentiellement de l'espoir, mais en fait, on n'y croit plus, quoi.
L'idée de cette réforme, c'est de recruter des étudiants à Bac plus 3, c'était à Bac plus 5 jusqu'à présent, et proposer ensuite aux lauréats un master rémunéré, avec beaucoup de temps en situation devant des élèves. Marine, à Lorient, prépare ce nouveau concours depuis des mois. Elle a appris sa suspension la veille de Noël, drôle de cadeau. Elle qui a la vocation bien ancrée et est aujourd'hui très remontée.
Pour moi, c'est un non-sens total. Ça fait déjà presque 6 mois que l'on prépare ce nouveau concours. que les enseignants se plient en quatre, littéralement, pour nous proposer des cours à la hauteur de ce nouveau concours. Et pour autant, on apprend donc à 3 mois à peine des épreuves écrites que le gouvernement ne sait pas lui-même s'il va être en mesure de mettre en place et d'organiser ces épreuves écrites et l'ensemble de la réforme.
C'est un manque de respect total, s'emporte l'étudiante en double licence lettres modernes et espagnoles, et ça joue sur la motivation pour réviser.
Ah oui, clairement.
Ajoute Théo.
Avant les vacances, j'étais dans une optique de vraiment travailler le concours. J'avais pris des livres à la bibliothèque pour travailler. Et depuis l'annonce, en fait, je me suis dit, mais pourquoi en fait ? Enfin, pourquoi travailler autant ? Pourquoi me fatiguer autant ? Il y a quand même de la démotivation. Oui, je suis démoralisé pour la suite.
Sans oublier l'image renvoyée par l'État et employeur de ces futurs fonctionnaires.
Ça dégrade vraiment la confiance qu'on peut avoir et cette relation future qu'on va avoir avec l'éducation nationale qui commence sur de très mauvaises bases.
Des étudiants qui vont surveiller de très près les prochaines discussions au Parlement pour savoir si oui ou non le budget sera voté à temps pour que ces nouveaux concours du printemps puissent se tenir.
Merci beaucoup Noémie Bonin, spécialiste éducation de la rédaction de France Info. Du football en musique dans la playlist du jour de Maureen Suignard qui arrive. D'abord, l'Actu Éco, c'est avec vous Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'Éco avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Actu Éco en trois titres. On commence avec la France qui bat un nouveau record d'exportation d'électricité.
Oui, et ce pour la deuxième année consécutive. Selon RTE, le réseau de transport d'électricité, notre production a permis de vendre à l'étranger l'année dernière un peu plus de 92 TWh contre 89 en 2024. Pour référence, 92 TWh, cela représente plus que la consommation d'un pays comme la Belgique pendant un an. Et oui. Alors notre électricité exportée a été consommée en priorité par l'Italie, puis par l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni. En valeur, cela représente une activité de 5,4 milliards d'euros.
De son côté, la Norvège, elle atteint un record en matière de voitures électriques.
Oui, l'électrique a représenté l'année dernière 96% des voitures neuves immatriculées dans le pays. Et sur le seul mois de décembre, cette proportion a grimpé à 98% du parc auto vendu. La transition rapide vers l'électrification de la Norvège, pays producteur de pétrole, contraste avec le reste de l'Europe où la faible demande de voitures électriques vient de pousser Bruxelles à revenir sur son projet d'interdiction des voitures à moteur thermique pour 2035.
Le groupe Michelin investit aux États-Unis.
Oui, l'équipementier automobile français rachète deux entreprises américaines spécialisées dans les tissus plastifiés, une activité à haut potentiel de croissance dans le secteur des matériaux polymères. Coulet Group et Textech Industries qui vont permettre à Michelin de dégager 280 millions de dollars, ça fait environ 240 millions d'euros de revenus supplémentaires.
Emmanuel Cuny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info, ce sera le Brief Éco.
L'enlèvement du président du Venezuela va-t-il entraîner une crise pétrolière mondiale ? On pose la question ce matin, surtout le fait de savoir si cela va entraîner une flambée du prix des carburants à la pompe pour les automobilistes. Nous verrons en fait pourquoi il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny. On vous retrouve donc à 6h23. Voilà. C'est très précis. Votre résolution de l'année, c'est de garder votre ponctualité légendaire. Et justement, à 5h55, c'est l'heure de votre playlist, Maureen Suignard. Et vous nous emmenez ce matin sur le continent africain.
Puisque nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc et le foot, comme souvent, ça se vit en musique. Vous entendez Africalé, l'hymne officiel de la CAN 2025. Ce titre réunit la béninoise Angélique Kidjo, qui est une icône mondiale de la musique africaine, Jaylan, la chanteuse marocaine de 31 ans qui représente un peu la nouvelle génération du royaume, et l'artiste, c'est le nom de scène du troisième chanteur, un franco-marocain qui a grandi en France, en Seine-Saint-Denis. Là, on est plus sur du rap, de l'afropop et du R&B. Le morceau est là pour encourager toutes les équipes et véhiculer un message d'unité pour le continent. Mais une musique, ça ne suffit pas pour mettre l'ambiance. Comme toujours, d'autres titres sont créés dans les différents pays pour pousser les équipes nationales. Ce titre nous vient du pays hôte, le Maroc. Ça s'appelle Champions et c'est avec un certain Faudel. Il y a plusieurs chanteurs, ils chantent en français, en anglais, en arabe pour encourager les lions de l'Atlas tout en véhiculant encore un message d'unité. Le Maroc rassemble les cœurs. On est tous champions du monde, fredonne-t-il. C'est toujours plus facile à dire quand on gagne. Allez, direction la Côte d'Ivoire où Imra, une figure montante du rap, a été choisie pour pousser les éléphants. Attaquez-les, attaquez-les, attaquez-les.
1-0, envoie ce ballon.
Musique un petit peu plus combative hein, quand même.
Pour pousser des éléphants.
Hein. Faites pour galvaniser les champions d'Afrique en titre. Ce titre s'appelle Kapakassé, je l'ai dit très très mal, mais bon, c'est un terme populaire en ivoirien. Vous m'excuserez les auditeurs qui parlent cette langue. Donc c'est un terme populaire ivoirien qui signifie jouer dur, frapper fort. Et le titre a déjà été vu plus d'1 600 000 fois sur YouTube. Et pour finir, je voulais vous parler de l'Algérie. Ce n'est pas une musique officielle cette fois qui agite les supporters. C'est un slogan qui est repris depuis le début de la CAN. Et qui a été mis en musique par plusieurs artistes. On entend l'une des versions. Algérie, Maroc, frère, frère, disent les paroles qui sont scandées par les Marocains et les Algériens dans les stades et autour, loin, très loin des tensions diplomatiques entre Alger et Rabat. Voilà, ça fait du bien, un peu d'amour, de paix, d'amitié, non ?
Exactement, et d'ailleurs, j'ai jeté un coup d'œil, Maureen Suignard, il fait 12 à Alger et 14 à Rabat,
ah,
justement,
aussi,
ouais. Et ça change un petit peu de ce qu'on a en ce moment. Nous, en France, justement, la météo de Christine Peña arrive.
France Info Météo, avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin, grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur Vérissure.fr.
Christine Peña, c'est un froid intense qui donne de la neige sur le nord du pays.
Absolument, j'ai eu peur que vous me piquiez mon boulot là, un instant.
je ne serai pas à la hauteur.
Alors, en tout cas, les hauteurs de neige, tiens, on n'en a pas parlé ce matin, mais si, quelques centimètres de neige, de 3 à 7 centimètres de neige sont attendus sur les 7 départements en vigilance orange, mais pas que. Hein. Alors, entre la Normandie, la Bretagne, jusqu'au Finistère, nous avons jusqu'à 10 centimètres hein, sur les hauteurs normandes, parfois. Sur Paris aussi, nous devrions avoir de la neige cet après-midi, ce soir, et elle tiendra au sol. Et ça mettra la pagaille demain. Attention, les sols seront glissants, alors pas qu'à Paris, entre la Champagne, Paris, jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, jusqu'en Manche, donc avec cette neige qui tient au sol, des températures stationnaires, donc très froides, négatives ce matin, cet après-midi, moins 1 à Dijon, à Besançon, pas de dégel hein, sur le nord-est. Mmh. Nous avons du soleil, hein, en revanche, sur le reste du pays, au sud de la Loire notamment, en Méditerranée, un peu plus doux, 12 quand même à Nice et Bastia, c'est assez exceptionnel. 5 à Marseille, il fait beaucoup plus froid avec un ciel à peine voilé. 4 à Bordeaux sous le soleil. Froid à Rennes également, 3 degrés simplement, 2 à Paris et 2 également à Toulouse. Demain, nous aurons du soleil, mais mercredi, de nouveau de la neige sur un axe qui ira de la Belgique au Massif central. C'est vraiment une première semaine là, de l'année bien hivernale.
Merci beaucoup Christine Peña, bien vous couvrir. J'espère que c'est votre bonne résolution pour 2026. Bonjour et meilleurs voeux Jérôme Chapuis.
Merci, envoyez un accueil chaleureux.
Oui,
merci William Gacosta, vous avez gagné le droit de revenir pour le journal de 7h.